paysage vibratoire. L'émission de poésie en habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver autour de ma table aujourd'hui. La parité est respectée puisque je reçois Denise Candreau et Alain Andrieux. Bonsoir messieurs, dames.
Bonsoir Marek.
Bonsoir Marek.
Voilà, on a hâte de vous écouter. Et bien sûr, comme d'habitude, ces petites pensées qui nous viennent d'Extrême-Orient, ce sont les haïkus, la saison d'automne. Adieu. Au-delà du brouillard, un brouillard plus profond. Mitsuhashi Takajo. Je quitte le temple zen. J'entre dans la nuit étoilée. Masaoka Shiki. Toute la nuit, sous la lune ronde, à faire le tour de l'étang. Matsuo Basho. Éclipse de lune. Je regrette ce haïku qui m'échappe, Kimura Toshio. Fût-ce en mille éclats, elle est toujours là, la lune dans l'eau, Ueda Shoshu. Au milieu de la casserole, parmi les patates, le clair de lune, Marikawa Kyoroku. Et on enchaîne avec le premier titre de ce soir. J'ai choisi une chanson de Bourvil, 1960. Il était acteur, mais il poussait aussi la chansonnette. C'est une chanson tendre, où s'actionne avec libéralité le piano à bretelles, rappelant un petit peu les guinguettes, le petit bal perdu.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.
Petite promenade à présent dans le jardin poétique et secret d'Alain. Nous écoutons.
Alors j'ai choisi Louis Aragon. Louis Aragon est un écrivain, romancier et poète français qui a participé au mouvement Dada. Il est devenu l'un des principaux créateurs du mouvement surréaliste et sa poésie est inspirée par l'amour qu'il voue à son épouse Elsa Triolet. Et j'ai choisi aujourd'hui le Cantique à Elsa. Je te touche et je vois ton corps. Et tu respires. Ce ne sont plus les jours du vivre séparé, c'est toi, tu vas, tu viens, et je suis ton empire, pour le meilleur et pour le pire. Et jamais tu ne fus si lointaine à mon gré. Ensemble, nous trouvons au pays des merveilles le plaisir sérieux, couleur de l'absolu. Mais lorsque je reviens à nous, que je m'éveille, si je soupire à ton oreille comme des mots d'adieu, tu ne les entends plus. Elle dort longuement, je l'écoute se taire. C'est elle dans mes bras, présente et cependant plus absente d'y être, et moi plus solitaire d'être plus près de son mystère, comme un joueur qui lit au dé le point perdant. Le jour qui semblera l'arracher à l'absence me la rend plus touchante et plus belle que lui. De l'ombre, elle a gardé les parfums et l'essence. Elle est comme un songe d'essence. Le jour qui la ramène est encore une nuit. Buisson quotidien, à quoi nous nous griffâmes, la vie aura passé comme un air entêtant, jamais rassasié de ces yeux qui m'affament. Mon ciel, mon désespoir, ma femme, 13 ans, j'aurais guetté ton silence chantant. Comme le coquillage enregistre la mer, grisant mon cœur, 13 ans, 13 hivers, 13 étés, j'aurais tremblé 13 ans sur le seuil des chimères, 13 ans d'une peur douce amère, et 13 ans conjurés des périls inventés. Ô mon enfant, le temps n'est pas à notre taille, que 1001 nuits sont peu pour des amants. 13 ans, c'est comme un jour, et c'est un feu de paille qui brûle à nos pieds maille à maille, le magique tapis de notre isolement.
Merci Alain pour ce très beau poème. Voilà, honneur aux femmes. D'ailleurs, puisqu'il est question de femmes, bien, écoutez, c'est une transition toute faite avec ce que nous a préparé Denise. Je crois que tu abordes des poétesses aujourd'hui.
C'est assez près, voilà, bon. Alors moi, je vais vous parler de Marcel Delpastre, qui est une femme poète. Donc, elle détestait qu'on l'appelle poétesse, hein, parce qu'elle disait, ça fait rimer avec mes fesses. Bon, voilà, elle était de la campagne. Elle était conteuse, romancière et ethnologue. Elle est née en 1925 et à Germont, et elle est morte à Germont en 1998. Alors, c'est une femme assez particulière parce que à la fin des années 40 et au début des années 50, elle a beaucoup de cahiers de poèmes parce qu'elle écrit toujours en travaillant la terre, elle laboure, elle sème, elle herse, elle bottelle, elle soigne les bêtes, mais sous ce masque de paysanne, elle écrit. Elle écrit beaucoup. Devant l'âtre, elle compte les bruits éphémères du quotidien, sa grand-mère, les cousins, une enfance où les sourires bon se fondent, où les têtes débordent de mémoire, bon, on se raconte beaucoup d'histoires. Donc cette femme va essayer par ses contacts, parce que beaucoup de gens l'encouragent, à publier ses correspondances littéraires et ses poèmes. Puis ensuite, elle va être en contact avec des gens qui vont lui permettre d'écrire dans des revues régionalistes et publier ses textes. Donc à partir des années 70, elle a beaucoup beaucoup de textes qui sont repris par le théâtre, par des compagnies de théâtre de Limoges et un peu autour, puisqu'elle est habitante de la Corrèze. Alors j'ai choisi un poème qui ressemble un petit peu au début d'Aragon. Elle, c'est sur c'est un extrait de L'homme éclaté. L'homme. Elle me touche. Elle me tient. Sa peau m'est toute familière, je la connais depuis toujours. Elle est chaude, comme la mienne. Je l'ai sentie contre ma peau et je n'ai pas frémi. J'ai reconnu le velouté de son contact et sa tiédeur. Quand je suis nue dans le soleil de juin, je ne sens pas davantage contre mon corps la douceur de l'air. Mais alors me vient le bonheur, alors dans tous mes os monte cette allégresse. Je danserai sur le foin mûr, je danserai comme les blés qu'une haleine de vent fait venir et aller, je danserai où que je sois. Mes pieds m'emportent, je danserai avec les bras, je danserai avec le cou, je me sens plus léger que l'orage. Elle me tient le cou, elle me touche le visage. Je danse tout entier, je danse comme un arbre, et mon cœur chante ses moissons.
Merci Denise. Voilà, derrière une espèce de carapace rurale, voilà une belle poésie qui s'émane. Eh bien, on fait une pause musicale avec les Innocents, un de leurs succès, Color.
Color, le monde, sans feutre, sans épreuve ni bombe. Un de l'or. Les murs écoulent dans le fleuve, la fracture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais répand du phare sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines chaque jour. Temps est un ami, il colore le monde.
fière.
Vous êtes bien sur CFM 90.2 et vous êtes à l'écoute de l'émission Paysage vibratoire qui n'a qu'un seul objectif, vous apporter du bonheur et aussi de la réflexion. Petit voyage dans le passé avec Tristan l'Hermite. Alors Tristan l'Hermite, pour situer, c'est la première moitié du XVIIe. C'était un gentilhomme attaché à la maison de Gaston d'Orléans, et de son temps, il était célèbre par la pauvreté de sa mise et sa passion du jeu. Il a raconté ses années de jeunesse dans un roman en partie autobiographique, Le Page disgracié. Il a écrit une tragédie, La Marianne, qui eut à l'époque un retentissement presque aussi considérable que le Cid de Corneille. Premier poème, La Comédie des fleurs. Puisqu'il vous plaît que je vous dis le sujet de la comédie, que je médite pour vos sœurs, les images m'en sont présentes. Les personnages sont des fleurs, et vous êtes des fleurs naissantes. Un lys reconnu pour un prince arrive dans une province, mais comme un prince de son sang, il est beau sur toute autre chose, et vient vêtu de satin blanc pour faire l'amour à la rose. Pour dire quelle est sa noblesse à cette charmante maîtresse qui s'habille de vermillon, le lys avec des présents d'ambre délègue un jeune papillon, son gentilhomme de la chambre. Ensuite, le prince s'avance pour lui faire la révérence. Il se trouble à leur aspect. Le sang leur descend et leur monte. L'un pâlit de trop de respect, l'autre rougit d'honnête honte. Mais cette infante de mérite, dès cette première visite, lui lance des regards trop doux. Le souci qui brûle pour elle, en même temps, en est jaloux, ce qui fait naître une querelle. On arme pour les deux cabales, on n'entend plus rien que timbales, que trompettes et que clairons, car avec tambour et trompette, les bourdons et les moucherons sonnent la charge à la retraite. Enfin, le lys a la victoire. Il revient couronné de gloire, attirant sur lui tous les yeux. La rose qui s'empâme d'aise embrasse le victorieux, et le victorieux la baise. De cette agréable entrevue, l'absinthe fait avec la rue un discours de mauvaise odeur, et la jeune épine Vinette, qui prend parti pour la pudeur, y montre son humeur aigrette. D'autre côté, Madame Ortie, qui veut être de la partie avec son cousin le Chardon, vient citer une médisance d'une jeune fleur de melon à qui l'on voit enfler la panse. Mais la rose enfin la fait taire par un secret bien salutaire approuvé de tout l'univers et dissipant tout cet ombrage, la bluglose met les couverts pour le festin de mariage. Tout contribue à cette fête. Sur le soir, un ballet s'apprête. Où l'on voit des airs plus qu'humains. On y danse, on s'y met à rire. Le pavot vient, on se retire. Bonsoir, je vous baise les mains. Voilà, tout à fait charmant. Et on enchaîne donc avec Alain qui, je crois, là, tu vas nous parler d'un Palestinien.
Oui, un poète palestinien qui est né en 1907, qui a exercé un métier d'avocat à Haïfa jusqu'en 1948, puis il a émigré en Syrie, où il a travaillé dans l'enseignement, il est mort en 1980, il n'est jamais revenu en Palestine, la Palestine qui était son pays et qu'il adorait. Il a fait comme un hymne à l'amour à son pays, que je vais vous lire maintenant.
Très bien.
Chaque fois que j'ai combattu pour toi, je t'ai aimé encore plus. Y a-t-il une terre autre que cette terre faite de musc et d'ambre? Y a-t-il un autre horizon au monde parfumé comme cet horizon? Chaque fois que j'ai défendu ta terre, le bois de mon âge a reverdi et mes ailes, ô Palestine, sur la cime, se sont déployées. Ô Palestinienne du nom qui inspire et fascine le brun de tes joues, atteste que la beauté est brune. Dans tes yeux, je ne cesse de lire le chant du génie, et sur leurs rives, les vagues d'acre sans cesse se brisent. Les orangers ont-ils fleuri des restes de nos larmes? Les oiseaux des pins n'embrassent plus les pentes. Les étoiles de la nuit ne veillent plus au-dessus du Carmel. Les jardiniers ont pleuré après notre départ et le jardin est devenu désert. Dans les vignes, aux grappes rouges violacées, mille pagnes se sont déchirées. Ô Palestine, regarde ton peuple offrant la plus magnifique des images. Au feu de la révolution et de l'éparpillement, il fait justice au monde. Nulle patrie ne se libère si le peuple ne se libère pas. Chaque homme a une maison, des rêves et un air de lutte. Et moi qui porte l'histoire de mon pays, je titube. Et sur chaque route, je marche échevelé, couvert de poussière. Chaque fois que ton nom flotte au-dessus de moi, mes paroles gagnent en poésie. Mes paroles sèment les espérances dans chaque camp. Mes paroles sont des flambeaux dans chaque désert et terre d'exil. Ô Palestine, tu es ce que j'ai de plus cher, beau et pur. Chaque fois que j'ai combattu pour toi, je t'ai aimé encore plus.
Merci Alain pour ce passage, ce poème poignant. Effectivement, chaque homme devrait avoir sa maison et ses rêves. Hein, que ce soit Palestine ou ailleurs. Hein. Mais effectivement, pour ceux qui sont, on connaît le drame palestinien, hein, ceux qui sont dans le drame quotidien, hein, on peut le dire, c'est peut-être d'autant plus fort hein, que d'aspirer à une patrie libérée où chaque homme pourrait jouir de sa maison et de ses rêves. Voilà, sans transition, on passe à Denise. Qu'a-t-elle dans sa besace ?
Alors, moi, j'ai aussi une femme encore... poétesse, professeure et journaliste brésilienne. Elle est considérée comme l'une des poétesses des plus importantes de la langue portugaise et l'un des grands noms du modernisme brésilien. Donc, elle était fille d'un père fonctionnaire et d'une mère professeure, mais elle a été élevée par sa grand-mère maternelle parce que son père est mort avant sa naissance et ensuite sa mère est morte à l'âge de 3 ans. Donc, c'est une femme qui a donc été marquée par la perte de ses parents, mais aussi par le suicide de son premier mari, qui était un peintre. Et donc, les poèmes de Cecilia Meirelles parlent beaucoup de contemplation, de solitude, de silence, et aussi la place qui est faite à l'éphémère. Elle a commencé à écrire à l'âge de 9 ans. Donc,
d'accord.
Voilà.
C'est bien souligné parce que
ah oui, 9 ans comment
voilà l'émission dernière aussi Jean Baron nous avait fait lecture de superbes poèmes et c'était la même tranche d'âge les jeunes gens avaient 9 ans enfin
ah oui.
Et je trouve qu'il y avait une force d'évocation absolument sublime. Ben nous t'écoutons.
Oui, à 18 ans elle a publié son premier recueil de poésie. Puis ensuite elle a donné des cours de littérature, elle a écrit aussi de nombreux poèmes pour les enfants et elle a elle a créé surtout la première bibliothèque pour enfants au Brésil. Donc ça n'existait pas avant. Donc là, on est dans les années 1919 à 1940. Hein. Et ensuite, elle va faire des cours de littérature partout, aux États-Unis, en Uruguay, en Argentine, au Chili. Et elle participe à un colloque sur l'œuvre de Gandhi à Goa. Donc elle se déplace beaucoup. Elle apprend le sanskrit. Elle apprend le hindi et traduit les livres de Rabindranath Tagore. Pardon, pour l'écorche.
Oui, on ne le rencontre pas tous les jours.
Merveilleux philosophe. Donc voilà, elle a aussi traduit les œuvres de Federico Garcia Lorca, Virginia Woolf, Rainer Maria Rilke, etc. Rilke. Alors, je vais vous dire un petit texte. Motif. Je chante parce que l'instant existe et ma vie est complète. Je ne suis ni joyeux ni triste. Je suis un poète, frère des choses fugitives. Je ne sens ni joie ni tourment. Je traverse nuits et jours dans le vent. Si je détruis ou si j'édifie, si je persiste ou me défais, je ne sais, je ne sais, je ne sais si je reste ou si je m'en vais. Je sais que je chante et la chanson est tout, l'aile rythmée à un son éternel. je sais qu'un jour, je serai muet. Rien de plus.
Ben, merci, Denise, pour ce poème tout à fait charmant. Alors, oui, éloge de l'éphémère, ça te parle, toi? Ça te dit quelque chose?
Ah ben oui.
Oui,
oui, l'éloge de l'éphémère, c'est l'intempérance, c'est...
D'accord.
Tout passe.
Oui, c'est ça, tout passe, voilà. Pourtant, on a des écrits qui s'inscrivent dans l'éternité, alors comment le comprendre?
Comment ça s'inscrit dans les... Oui, mais ce sont des moments fugaces que nous vivons. Après, ils sont écrits, ils restent, mais on change de sentiment, d'émotion.
D'accord, c'est ça. Donc,
et
pour
on
toi,
n'est pas grand-chose.
C'est le champ émotionnel qui
voilà,
doit être vécu sur l'instant pleinement. Voilà, voilà.
Et en dehors de qui peuvent s'incruster.
En dehors de tout calcul intellectuel, ouais. C'est le champ émotionnel, en fait, qui est très important chez le poète.
Pas que, je pense que. Aussi, il y a les jeux de mots, il y a Jean Dardieu avec...
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui,
il y a la
réflexion,
il y a la danse
langage.
Des mots, oui, tout à fait.
Bon, mais là, j'aime beaucoup ce fait... elle a des poèmes plus sur la mort, sur la solitude, qui sont très poignants.
Bien sûr, ouais.
Mais j'ai aimé celui-là parce qu'il est très musical. Je sais que je chante. Elle chante. Elle chante l'instant. Elle chante ce qu'elle est. Et je trouve ça super.
Voilà, et puis ça a toujours habité les hommes, hein, ce côté instantané. Depuis la nuit des temps, les hommes chantent, font de l'art éphémère aussi. Voilà, c'est présent.
Sur l'art, je suis un peu plus... je suis moins dans l'éphémère, on va dire.
D'accord, ok.
Sur les mots, les sensations. Oui, mais en même temps, bon, quand quelque chose est fini, eh bien, il passe et puis... on va vers autre chose. Donc,
enfin, ce qui est essentiel, c'est de ressentir la vie et que l'on vit pleinement sur l'instant. Ça,
oui,
ça me semble important. Voilà,
c'est
une source de créativité. Eh bien, on va terminer avec Tristan l'Hermite, le poème final, le Promenoir noir des deux amants. Auprès de cette grotte sombre, où l'on respire un air si doux, l'onde lutte avec les cailloux et la lumière avec l'ombre. Ces flots lassés de l'exercice qu'ils ont fait dessus ce gravier se reposent dans ce vivier où mourut autrefois Narcisse. C'est un des miroirs où le faune vient voir si son teint cramoisi, depuis que l'amour l'a saisi, ne serait point devenu jaune. L'ombre de cette fleur vermeille et celle de ses joncs pendants paraissent être là-dedans les songes de l'eau qui sommeille. Les plus aimables influences qui rajeunissent l'univers ont relevé ces tapis verts de fleurs de toutes les nuances. Dans ce bois, ni dans ces montagnes, jamais chasseur ne vint encore. Si quelqu'un y sonne du corps, c'est Diane avec ses compagnes. Ce vieux chêne a des marques saintes. Sans doute qui le couperait, le sang chaud en découlerait. Et l'arbre pousserait des plaintes. Ce rossignol mélancolique du souvenir de son malheur tâche de charmer sa douleur, mettant son histoire en musique. Il reprend sa note première pour chanter, d'un art sans pareil, sous ce rameau que le soleil a doré d'un trait de lumière. Sur ce frêne, deux tourterelles s'entretiennent de leurs tourments et font les doux appointements de leurs amoureuses querelles. Un jour, Vénus, avec Anchise, parmi ses forces, allait perdant, et deux amours, en l'attendant, disputaient pour une cerise. Dans toutes ces routes divines, les nymphes dansent aux chansons et donnent la grâce aux buissons de porter des fleurs sans épines. Jamais les vents ni le tonnerre n'ont troublé la paix de ces lieux, et la complaisance des dieux y sourit toujours à la terre. Crois mon conseil, chère Climène, pour laisser arriver le soir, je te prie, allons nous asseoir sur le bord de cette fontaine. N'as-tu pas soupiré, Zéphyr, de merveille et d'amour atteint, voyant des roses sur ton teint qui ne sont pas de son empire? Sa bouche, d'odeur toute pleine, a soufflé sur notre chemin, mêlant un esprit de jasmin à l'ambre de ta douce haleine. Penche la tête sur cette onde, dont le cristal paraît si noir, je t'y veux faire apercevoir l'objet le plus charmant du monde. Tu ne dois pas être étonné si, vivant sous tes douces lois, j'appelle ces beaux yeux mes rois, mes astres et ma destinée. bien que ta froideur soit extrême, si dessous l'habit d'un garçon, tu te voyais de la façon, tu mourrais d'amour pour toi-même. Veux-tu, par un doux privilège, me mettre au-dessus des humains? Fais-moi boire au creux de tes mains, si l'eau n'en dissout point la neige. Ah, je n'en puis plus, je me pâme, mon âme est prête à s'envoler. Tu viens de me faire avaler la moitié moins d'eau que de flamme. Climène, ce baiser m'enivre. Cet autre me rend tout transi. Si je meurs de celui-ci, je ne suis pas digne de vivre. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Je remercie tout spécialement, bien sûr, Denise et Alain, ainsi que les rois du potentiomètre qui sont derrière le pupitre qui règle, bien sûr, la qualité du son, à savoir Monsieur Lucas et sa petite compagne qui s'appelle... Voilà, je n'entends point, mais...
Lucille.
Voilà. Merci à tous. Poétisez bien votre vie, parce que ça nous fait du bien, surtout dans ce monde de brut. Et on vous dit à la semaine prochaine. Pour se quitter, un petit peu de balade américaine avec les Eagles, Peaceful Easy Feeling.
I like the way sparkling earrings lay against your skin so brown. And I want to sleep with you in the desert tonight with a billion stars all around. 'Cause I got a
paysage vibratoire. L'émission de poésie en habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio.